Merci Bastien de Seninck et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Le Secret des Sources sur France Culture. Nous entrons comme chaque semaine dans les coulisses de l'information.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Benoît Bouscarel.
We're out, titré fièrement dès hier matin à Londres, le Daily Mail qui a bouclé son édition spéciale dès 5h du matin pour pouvoir célébrer sans attendre les résultats du référendum au Royaume-Uni et le Brexit avec en une la photo d'un Nigel Farage exultant, tandis que The Times prenait de son côté une heure de plus pour arriver dans les kiosques, titrant beaucoup plus sobrement et factuellement Brexit for Britain, sorti pour la Grande-Bretagne. Ces deux titres de la presse britannique ont pris acte, chacun à leur manière, du résultat du vote, du choc qu'il représente et de ce qu'il annonce pour l'avenir. À l'issue d'une campagne qui aura été marquée par de forts clivages dans les rédactions qu'on va essayer d'analyser, en nous posant également la question de savoir comment la presse européenne, dans sa diversité, a vécu ou s'est engagée dans cette campagne. Ce que les journalistes européens nous disent du Brexit et ce que cette crise nous dit de la presse du continent, voilà notre sujet du jour. Dans cette émission également, le traditionnel clin d'œil de Yacine Bouzard et puis la correspondance de Zoé Berry qui nous appellera de Bogota en Colombie où la presse, vous l'entendrez, est dans l'ensemble prudemment optimiste après l'accord de cessez-le-feu signé jeudi entre le gouvernement et la guérilla marxiste des FARC. Bienvenue à toutes et à tous dans le secret des sources. Take me out.
The UK has voted to leave the European Union. So what happens now?
Breaking news, le Royaume-Uni rompt avec l'Europe. Avec la une du Daily Mirror, we are out.
La presse écrite en particulier a un impact au Royaume-Uni qui est beaucoup plus grand que celui qu'elle a en France. Elle part de tellement haut qu'elle conserve encore des millions et des millions de lecteurs chaque jour.
Beaucoup de lecteurs de journaux britanniques ne comprennent pas les vrais enjeux parce que le débat n'est pas formulé dans les bons termes. Mmh. On ne comprend pas toujours.
Et les principaux titres de la presse populaire, le Sun bien sûr, le Daily Express, le Daily Mail, mais aussi le grand quotidien conservateur de Daily Telegraph, ont tous fait campagne ouvertement, en particulier sur la fin, pour la sortie de l'Union européenne.
Le secret des sources.
De toutes les unes fabriquées par la presse britannique depuis l'annonce du prochain Brexit, celle de l'hebdomadaire The Economist est peut-être la plus marquante avec cette Union Jack vieillie, usée et surtout déchirée, flanquée de ces mots « tragic split », une scission tragique. Bonjour Anne-Sylvaine Chassagny.
Bonjour, alors moi je travaille pour le Financial Times.
Oui, c'est ce que j'allais dire, vous êtes la chef du bureau parisien du Financial Times, autre titre de la presse économique, voilà le lien. En version quotidienne, vous aviez pris aussi position pour le Remain, pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, mais vous avez été beaucoup plus sobre dans la titraille, en insistant quand même depuis les résultats sur les conséquences du Brexit, sur les marchés et sur le risque du populisme en Grande-Bretagne et ailleurs, reprenant finalement les deux grandes thématiques explorées pendant la campagne autour du référendum.
Tout à fait, nous avons mis en avant l'impact négatif de cette décision qui nous semble très, très grave de conséquences. En fait, on décrit aujourd'hui ce que beaucoup de personnes dans le camp du IN avaient prédit, c'est-à-dire une livre qui s'est cassée la figure, qui est maintenant à un point bas de 30 ans, les marchés qui sont en baisse de 4%, et la banque centrale, la banque d'Angleterre, qui est obligée d'intervenir massivement sur les marchés pour soutenir la livre. On voit bien que ce qu'on avait anticipé se réalise. Et on voit bien aussi les impacts politiques à travers l'Union européenne, y compris en France, où on voit une Marine Le Pen totalement renforcée, légitimée, et qui va mettre au cœur de sa campagne présidentielle l'an prochain la question d'un référendum.
Et du Frexit éventuel. Vous avez pris, vous l'avez dit, une position assez clairement finalement dans cette campagne, et vous nous dites ce matin que vous aviez raison, expliquant notamment pendant la campagne que sortir de l'Union européenne serait un acte gratuit d'automutilation pour la Grande-Bretagne. Visiblement, vous n'avez pas été entendu par les électeurs.
Non, parce que cette campagne a été très irrationnelle. D'ailleurs, ça a été un peu le drame, et on a du mal à s'en remettre, nous aussi, au sein de la rédaction. C'est que tous les faits tendaient à montrer que c'était une mauvaise décision de choisir le Brexit, et que tous les arguments émotionnels qui étaient dans le camp du Leave ont primé. Et donc, voilà, donc les grands enjeux de cette campagne ont été plus l'immigration, un sentiment de nostalgie face au déclin de la Grande-Bretagne, et donc une nostalgie du Grand Empire. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu désolant pour nous.
Le fait que la presse économique ait pris parti pour le Remain, c'est révélateur de quelque chose, peut-être, Anne-Sylvaine Chassagny. Et du coup, est-ce qu'on peut pas voir dans le résultat de ce référendum le signe d'un rejet des élites, notamment des élites financières, dans une grande partie de la population au Royaume-Uni?
Oui, tout à fait, c'est un rejet des élites. On voit bien dans la démographie, dans la sociologie du vote. Londres a voté massivement pour rester, mais toute la partie anglaise hors de Londres, donc l'Angleterre, qui a subi de plein fouet les inégalités, qui a beaucoup souffert pendant la crise financière, donc liée à la City, a voté pour sortir. Donc c'est très clair que c'est un rejet de l'establishment. Mais il faut bien dire également que même à Londres, parmi les élites, il y avait un très fort sentiment un très fort soutien aussi pour le camp du out, et ça nous a surpris, nous.
Avant de poser des questions à nos autres invités de la presse européenne autour de cette table aujourd'hui, Alberto Toscano, journaliste et écrivain italien, Juan José Dorado du groupe de presse espagnole La Région, et puis Stéphane De Vries, correspondant à Paris de RTL Pays-Bas. On va rester sur la presse britannique avec Anne Pinkett, qui est au téléphone avec nous également, qui collabore notamment au Time Magazine, et puis avec vous, Isabelle Vera-Masson, bonjour.
Bonjour.
Directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Vous connaissez très bien la presse britannique, qui n'a, et on l'a vu une nouvelle fois à l'occasion de cette campagne référendaire, que peu de choses à voir avec la presse qu'on connaît ici en France.
Oui, moi ce qui m'a frappé, c'est à quel point on dit souvent, ça fait partie des stéréotypes, que la Grande-Bretagne et la France sont à la fois très proches géographiquement, on se connaît bien les Anglais et les Français, et pourtant on a souvent des visions extrêmement différentes. Là, ce qui me frappe dans le débat sur le Brexit, c'est à quel point les points communs sont nombreux. C'est-à-dire à la fois, on voit que c'est les mêmes craintes, les mêmes rejets, certaines caractéristiques fondamentales, par exemple la crainte de l'immigration que nous partageons, la crainte de le déni d'une Europe qu'on accuse d'être bureaucrate, très loin des gens, etc. La crainte de la finance, alors évidemment, qui en Angleterre est marquée de manière très forte par la City. Nous, en France, elle est constamment dénoncée. Des caractéristiques communes très importantes comme la démographie, on l'a bien vu dans le résultat du Brexit. Des personnes âgées sont déterminantes dans certains votes.
Par âge, effectivement, est très spectaculaire.
Tout à fait.
Moins de 50 ans, plus de 50 ans, ça n'a rien à voir.
Plus on est âgé, plus on vote. Mmh. Et plus on est âgé, plus on vote. Alors en Angleterre, contre le Brexit, et on sait qu'en France, il y a des caractéristiques très très significatives selon l'âge. Donc les ressemblances sont nombreuses, mais il y a vraiment un endroit dans lequel il y a des vraies différences, c'est sur la presse. Et en particulier la presse écrite. La presse écrite en Angleterre a d'ailleurs pris position, on l'a dit, il y a eu des études qui ont été faites, 82% pour le Brexit selon certaines études. C'est une presse qui a un tirage très important, qu'on ne connaît plus. Les quatre premiers titres anglais correspondent à 6 millions d'exemplaires, c'est énorme. Ça regroupe, mais de manière encore moins importante, ce que nous connaissions avant la guerre de 14 en France. Deux types de presse très différentes. Une presse qu'on appelle tabloïde, très populaire, et puis une presse qui ressemble plus à nos journaux, comme le Times, qui cite dans son dernier numéro du Shakespeare en une. Donc on voit bien les différences.
Oui, c'est pas The Sun, hein.
Non, c'est pas The Sun qui cite rarement Shakespeare, je dois le dire. Une presse très excessive, là aussi, comme on n'en connaît pas, le titre du Sun sur Independence Day, c'est-à-dire que tout d'un coup, on fait référence à des thèmes tout à fait excessifs, comme si l'Angleterre vivait dans une totale dictature sous occupation et tout d'un coup, elle est libérée. Cameron a été montré en traître, complice d'une invasion de type nazi. La grossièreté de cette presse est totalement sans aucune comparaison avec la nôtre. Le dernier premier titre du Daily Star, c'est « Your future by the ballots », qui peut être traduite par « Saisissez votre futur par les urnes ou les burns », enfin, à chacun de décider. On n'imagine pas un titre comme celui-là en France. Et puis les mensonges. Les mensonges sont presque acceptés. Moi, je le regarde de l'extérieur. On critique, on dit que c'est pas bien. Mais enfin, finalement, on continue à mentir. On montre des photos d'immigrés qui sont évidemment des Syriens ou des Irakiens ou des gens sous le titre « Laissez-nous entrer, nous sommes Européens ». Visiblement, évidemment, ça n'a rien à voir avec la question européenne. Ou alors, les camions honneur anglais qui serait obligé de manger du muesli à cause de l'Europe. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, les lecteurs croiraient à ces mensonges-là. Donc il y a vraiment là quelque chose de très très frappant. Et puis, une dernière interrogation, mais d'une certaine manière, je fais écho à ce qui a été dit. On a beaucoup dit, ça fait partie des stéréotypes sur l'Angleterre, que ce pays était pragmatique, voire matérialiste, totalement dominé par sa raison. Et on voit bien que dans ce qui concerne le Brexit, au contraire, c'est des peurs irrationnelles, émotionnelles, des sentiments qui font référence à des vieilles croyances sur la nation, la nostalgie, la peur de l'étranger et le rêve d'une Angleterre qui n'existe plus.
Il y a eu un rejet des élites, on l'a vu, vous l'avez dit, Isabelle Verramasson, un rejet aussi d'une certaine presse ou d'une élite journalistique. On peut faire référence à ce qui s'est passé en France en 2005 avec le référendum sur le traité européen.
Alors, on peut se poser la question de l'influence de la presse, comme ça a été le cas en France et en Angleterre. Mais comme les presses sont extrêmement différentes, on peut imaginer qu'il y aurait presque une réaction inverse. Effectivement, en 2005, le rejet de l'Europe avait été marqué par un rejet des médias qu'on avait mis dans la classe politique, dans le même lot d'une certaine élite totalement coupée du peuple. Et là, c'est une presse qui, au contraire, se veut près du peuple. D'une certaine manière, elle accompagne le sentiment populaire de rejet des élites et on retrouve la coexistence de ces deux types de presse. Une qui suit le sentiment populaire contre les élites et une autre qui essaye vaguement de défendre un certain nombre de valeurs qui sont plutôt pour les bacs plus.
Isabelle Verramasson, vous parliez d'une rupture générationnelle, c'est vrai que c'est très intéressant. Est-ce que les jeunes lisent la presse encore? Parce que c'est une presse qui va bien, vous l'avez dit aussi, en Grande-Bretagne. Est-ce que les jeunes lisent la presse?
La presse anglaise?
La presse anglaise.
Oui, la jeunesse lit la presse anglaise beaucoup plus que chez nous, où véritablement les parts de marché en ce qui concerne la presse écrite diminuent de manière considérable, même si les jeunes retrouvent un peu la presse écrite à travers Internet et les sites des journaux.
Il y a une règle un peu différente au Royaume-Uni, on doit rester neutre quand on est à la télévision.
Alors, la presse écrite. La télévision, en ce qui concerne des pays de taille relativement modeste, comme nos pays, a des lois qui sont presque des lois commerciales. C'est-à-dire que lorsqu'on s'adresse à plus d'un million d'auditeurs ou de téléspectateurs, il est difficile de prendre des positions très nettes comme le fait la presse écrite. C'est-à-dire que si une émission de télévision a presque obligatoirement 1,5 million de téléspectateurs, 2-3 millions, dans ces cas-là, si vous prenez une position très nette politique, vous vous opposez forcément, statistiquement, à la moitié de votre audience. Donc, traditionnellement, le consensus est la loi des reins dans l'audiovisuel et la télévision. Et donc, c'est un peu ce qui se passe en France comme en Angleterre. Il y a beaucoup moins d'implications dans les médias audiovisuels.
Isabelle Verramasson, vous restez avec nous, évidemment. Alors, le Brexit prend un tour concret là, dans cette émission. Bonjour, Alberto Toscano.
Bonsoir.
Journaliste Bonjour. Et écrivain, correspondant notamment pour la RAI. Comment la presse italienne a suivi ces débats, cette campagne référendaire, et puis, depuis jeudi, les résultats de ce référendum et le Brexit?
Oui, la presse italienne a donné une énorme importance à ce référendum, aussi parce que l'Italie est extrêmement sensible à ce sujet, parce que au mois d'octobre, il y aura un référendum très important en Italie pour ratifier la réforme constitutionnelle voulue par le gouvernement Renzi. Donc moi, j'ai participé à des différents débats, entre autres à la radio de la RAI, pour laquelle je collabore depuis Paris, j'ai eu à cette occasion l'opportunité de mesurer la différence de sensibilité de l'élite italienne qui participait à ce type de débat. Il y a comme un désir de voir la Grande-Bretagne dans l'Union européenne et une crainte d'une contagion de référendite. Il y a une crainte dans la presse italienne, dans les médias italiens, qu'il y a comme une épidémie de référendum dans l'Europe entière et que le jeu du référendum soit pratiqué sur un algorithme de démagogie. et d'anti-européisme, d'euroscepticisme, et que ça puisse amener à faire prévaloir des forces centrifuges en Europe et donc à provoquer une crise profonde de l'Europe en tant qu'institution.
Stéphane De Vries est également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Correspondant pour RTL Pays-Bas à Paris. Oui. Est-ce qu'on a les mêmes craintes aux Pays-Bas qu'en Italie, que ce que vient de décrire Alberto Toscano ?
Non, en fait, aux Pays-Bas, depuis l'année dernière, il existe le référendum. Avant, il n'existait pas, en fait. Et ce sont les citoyens qui demandent le référendum. Donc, il faut juste 300 000 signatures pour obtenir un référendum. On en a eu un premier au mois d'avril, sur une question européenne aussi. Le rejet était massif, le non. En même temps, sur le Brexit, bien sûr, ça a été suivi, c'était l'information de cette semaine pour tous les médias. Surtout parce que les Pays-Bas, plus que n'importe autre pays européen, c'est le trait d'union entre les grands. C'est aussi le pays qui fait le plus de commerce de tous les pays européens avec la Grande-Bretagne. Et en fait, les Pays-Bas, c'est un mélange d'une sorte de libéralisme, socialisme, étatisme. C'est un mélange de tout, le modèle continental et le modèle anglo-saxon. Donc les Pays-Bas ont toujours défendu l'Angleterre, ont toujours tenu beaucoup à la place de l'Angleterre au sein de l'Union européenne. Et donc la déception, quand on a appris le résultat hier, a été énorme. Et bien sûr, on se pose des grandes questions, notamment économiques, parce que, vous savez, un Néerlandais, il s'inquiète uniquement quand on lui touche, on touche son porte-monnaie. Donc, voilà.
C'est une peur, une crainte et une déception qu'on retrouve dans les élites aux Pays-Bas ou dans la population?
Non, parce qu'aux Pays-Bas, il n'y a pas vraiment d'élite, parce que c'est un pays extrêmement égalitaire.
Je parlais des élites journalistiques, finalement.
Les élites journalistiques, ça n'existe pas non plus comme ici. En fait, il n'y a pas de grandes écoles, il n'y a pas de réseau. Les journalistes ne couchent pas avec des hommes politiques comme c'est le cas en France. Donc le journalisme est extrêmement accessible et égalitaire. Donc il n'y a pas cette idée. Et en plus, il faut aussi savoir, il y a la télé et la radio publique qui est accessible à tout le monde. Donc si vous êtes citoyen des Pays-Bas, vous avez une idée pour une émission aux Pays-Bas, vous avez accès à la télé et la radio publique. C'est pas comme ici où c'est une case extrêmement fermé, une maison qui tourne en rond, par exemple. Donc il n'y a pas cette élite, en fait, si vous voulez. Ceci dit,
il n'y a pas de coupure entre la presse, entre les journalistes et les lecteurs, les téléspectateurs, comme on voit partout dans les pays européens.
Non, pas vraiment. Il y a méfiance générale.
On tente de brosser un tableau quand même très idyllique des Pays-Bas.
Bah, écoutez, les Pays-Bas, c'est quand même le numéro 2 sur la liste des pays de la liberté de la presse au monde. La France est loin, même pas dans le top 40. Donc,
26e.
non, pas du tout. 45e, un truc comme ça dans la liste du RSF, Reporters sans frontières. Il faut savoir que même le référendum qu'on a eu au mois d'avril a été organisé par un blog. Donc c'est un média qui a organisé un référendum. Ce qui explique aussi son énorme succès. Donc il y a de manière générale, il y a méfiance vis-à-vis des médias. En même temps, les médias, de manière générale, aux Pays-Bas sont extrêmement accessibles aux citoyens.
Et surtout, on ne couche pas.
On ne couche pas.
Ce qui n'est pas le cas en Italie. Donc. Juan José Dorado, on va essayer de prendre des nouvelles de l'Espagne maintenant. Bonjour.
Buenos días.
Correspondant à Paris pour l'Espagne. Le groupe espagnol La Région. Je ne vous pose pas la question qui semble intéresser Stéphane De Vries ou Alberto Toscano. Simplement, comment la presse espagnole a accueilli ce résultat du référendum britannique?
Mais je pense que la presse espagnole, comme la plupart de la presse européenne, ne s'attendait pas à cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc d'abord, c'est la surprise. Après, forcément, après les éléments factuels sur lesquels tout le monde en parle, on s'est beaucoup intéressé notamment à trois sujets. D'abord, la presse espagnole a tout de suite signalé David Cameron comme le vrai responsable de ce qui se passe aujourd'hui, par des intérêts politiciens pour essayer de se maintenir.
De résoudre un gros problème,
voilà,
au sein de son parti.
Il a créé un gros problème en Europe, mais aussi au Royaume-Uni. Donc la presse espagnole a tout de suite dit, voilà, le vrai responsable, c'est David Cameron. Et d'ailleurs, il y a notamment un éditorialiste de El País qui a signalé à un moment donné pourquoi ce référendum se joue sur un 50-50. Il a mis l'exemple du Monténégro, l'indépendance du Monténégro, où il y avait quand même des conditions, c'est-à-dire il fallait au moins 55% des gens qui soient d'accord pour pouvoir sortir. Parce qu'en fait, c'est irréversible. Il n'y a pas de marche arrière. Donc, jouer au 50-50, c'était peut-être pas non plus la bonne question. Donc, on a tout de suite signalé ce point-là. Et puis, on s'est intéressé aux conséquences. Aux conséquences, bien évidemment, pour l'Espagne, 300 000 Britanniques habitent en Espagne. Les conséquences pour l'Union européenne, on a beaucoup parlé de ce qui se passe en France avec le Front National qui appelle un référendum. Il y a eu deux voix aussi aux Pays-Bas qui appellent un référendum. Et puis, de l'autre côté, les Écossais qui voudraient partir du Royaume-Uni, et les Irlandais qui aimeraient effectivement rester en Europe. Et donc, on s'est posé cette question. Mais surtout, c'est les aspects économiques qui ont touché beaucoup la presse espagnole, parce que les investissements britanniques en Espagne, la présence de Britanniques en Espagne, ça représente quand même beaucoup d'argent. Et donc, il fallait voir dans quelle mesure ça va nous toucher. Et puis, il y a un dernier point. Ce Brexit fait référence directe, a été pris tout de suite par les indépendantistes catalans. Donc, il y a aussi une lecture intérieure à l'Espagne. Est-ce que ce Brexit va donner des ailes aux indépendantistes catalans? C'est la troisième question qu'on s'est posée en Espagne
au niveau
de la presse.
C'est la référendite dont parlait tout à l'heure, le risque de référendite dont parlait tout à l'heure Alberto Toscano.
En plus, par rapport encore à la presse italienne, mais je crois qu'il y a un trait commun avec la presse espagnole et sans doute avec la presse grecque, il y a la question de l'immigration. De l'émigration et immigration, dans le sens que nos pays de la Méditerranée sont en première ligne. Et à l'occasion de ce Brexit, on a vu, certainement dans la presse italienne, mais je crois aussi dans des journaux espagnols, et il y a eu une sensibilité particulière au fait que nous, pays de première ligne dans la Méditerranée, nous payons le prix, pas tellement un prix financier, mais aussi un prix d'engagement national vis-à-vis d'un problème de l'immigration, que le reste de l'Europe essaye de refuser en créant des murs à nos frontières. Donc, il y a pour notre presse, de nos pays, une sensibilité pays particulière à un sujet qui, vu de Grande-Bretagne, a poussé vers le Brexit et à la méfiance vis-à-vis de nos pays, de l'Espagne, de l'Italie et de la Grèce. Voilà comme aujourd'hui, le sujet de l'immigration divise l'Europe à son intérieur sur une question très concrète. Est-ce que nous aidons ou non ces gens, ou est-ce que le Nord, le centre-Nord, veut filer le problème seulement aux pays de première ligne?
On peut avoir une réaction là-dessus de Stéphane De Vries, plus au nord de l'Europe pour les Pays-Bas.
Non, je partage absolument entièrement l'avis de Alberto, bien évidemment. Le résultat de ce référendum, c'est le résultat de l'égoïsme, tout simplement. La Grande-Bretagne, où il y a beaucoup plus d'immigration qu'en France, il faut le noter aussi, a vraiment profité de cette immigration, notamment des pays de l'Est, par exemple. Ils reçoivent très très peu de réfugiés syriens ou irakiens, presque aussi peu que la France, qui n'en reçoivent presque personne non plus. Je crois 300 Syriens ou 3000 Syriens l'année dernière en France. Donc oui, c'est vrai que c'est le résultat de l'égoïsme total et l'abandon, si vous voulez, de l'idée européenne qui était quand même à la base de partager les responsabilités, les bénéfices, mais aussi enfin comme dans un mariage, hein, pour le pire et pour le meilleur. Et là, bon, dès que les choses s'empirent un peu, bon, les lâches s'en vont, parce que c'est ça qui se passe.
On a retrouvé Anne Penquette depuis la Grande-Bretagne par téléphone avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Ancienne journaliste à The Independent, vous travaillez maintenant notamment pour Time Magazine. Est-ce que vous diriez que si la presse britannique n'a peut-être pas fait le référendum, son résultat, elle a peut-être donné le ton du débat en étant peut-être un peu trop souvent polémique, en insistant peut-être un peu trop souvent sur l'immigration, comme on vient de le dire, ou comme le disait tout à l'heure Isabelle Verramasson?
Oui, et comme il disait tout à l'heure, vous avez une situation dans la presse britannique qui est tout à fait différente par rapport à la France. Justement, il y a l'influence des tabloïds. Et là, vraiment, ils n'ont pas hésité à mentir carrément au sujet de l'immigration. Parce qu'il est évident que pour les partisans du Brexit, lorsqu'ils ont vu que les arguments sur l'économie ne fonctionnaient pas, alors là, ils ont changé leur fusil d'épaule et ils se sont focalisés sur l'immigration. Et c'est ça, en fait, je pense, surtout vu d'ici, dans le nord-ouest d'Angleterre où je suis en ce moment, où il y a un fort pourcentage d'immigrés d'origine pakistanaise, en fait, hein, pas de l'UE, que ça a très bien fonctionné chez les gens qui se sentent, en fait, des laissés pour compte.
Il n'y a pas eu d'autres sujets dans cette campagne d'importance, Anne Penquette, que l'immigration ou que la peur du déclassement économique?
Vers la fin, ça a surtout été ça. Hein. Et pour moi, c'est ça qui a donné le résultat qu'on a aujourd'hui.
ce qui veut dire des choses et ce qui signifie des choses sur l'état de la presse britannique en général, qu'on ne retrouve pas ailleurs en Europe, c'est vrai. C'est ce qu'on disait tout à l'heure et c'est ce qu'on voit là depuis le début de cette émission avec nos correspondants étrangers.
Oui, mais alors le rôle de la presse n'est pas à minimiser, bien sûr, parce que ce qui se passe ici, c'est que d'abord les Anglais sont eurosceptiques pour la plupart. Et en ce qui concerne la presse est quasiment intégralement pour le Brexit et très eurosceptique par-dessus le marché aussi. Donc tout ce qu'ils ont pu raconter allait dans ce sens-là.
Isabelle Verramasson, vous vouliez intervenir.
Oui, je voulais dire que ça fonctionne aussi un peu sur le modèle du bouc émissaire. C'est-à-dire que quand on voit en 2005, les débats qui avaient lieu n'avaient pas grand-chose à voir avec l'immigration et la question de l'immigration n'a pas grand-chose à voir avec l'Europe en ce qui concerne la Grande-Bretagne. C'est différent, vous l'avez dit, pour l'Italie ou pour l'Espagne. Donc on voit bien que quand on ne veut plus de son animal, on dit qu'il a la rage. Et donc ça mérite vraiment d'être étudié, ce vote pour le Brexit. Il y a des amalgames, il y a des confusions qui sont à la fois un ensemble de mensonges et d'à peu près de jouer sur les peurs et sur les idées fausses qui sont tout à fait exceptionnelles et on peut encore une fois le comparer dans d'autres débats sur l'Europe. Donc ça mérite d'être étudié et je trouve que cette question de l'immigration en ce qui concerne l'Europe est tout à fait étrange.
This ain't the down, it's the upbeat, make it complete. So what's the story? Guaranteed accuracy, enhanced CD. Latest technology, darts at treble 20. Huge non-recoupable advance, majors be vigilant. I excel in both content and deliverance. So let's put on our classics and we'll have a little dance, shall we? No sales pitch, no media hype. No hydro, it's nice and ripe. I speak in communications in bold type. This ain't your archetypal street sound. Scan for ultrasounds, north, south, east, west and all round. And then to the underground.
You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward.
C'était The Streets sur France Culture, choix musical de notre réalisateur Vincent Abouchard.
Le secret des sources, Benoît Bouscarel.
On va faire un tour d'Europe encore. La presse espagnole ne ment jamais, évidemment, Juan Rosé Dorado.
Pas plus que la française, l'italienne, ou peut-être pas l'hollandaise, hein. On sait pas au Pays-Bas. Non, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai retrouvé dans la presse espagnole, nous avons eu des mots qu'on a appliqués à l'Angleterre, pour lesquels on s'attendait pas. C'est-à-dire, on a parlé d'un vote xénophobe, on a parlé d'un vote d'intolérance, on a parlé d'un vote extrémiste, populiste. Et c'est des termes qu'on n'aurait jamais mis sur le Royaume-Uni. Et puis, ce vote du Brexit nous amène aussi à une autre question. Vous savez que demain dimanche, nous avons des élections en Espagne et qu'il y a une partie de la population, de l'électorat, qui est indécis. Et donc, quelle est l'influence de ce non des Britanniques à l'Union européenne pour les électeurs espagnols qui auront demain matin à déposer un bulletin dans l'urne. Donc pour l'Espagne, ce vote est vraiment très important.
Ouais, comme pour l'Italie tout à l'heure, ce que vous disiez, Alberto Toscano.
Sans doute, c'est un vote très important pour l'Italie, avec une inquiétude par rapport à ce qui se passe aussi dans d'autres pays. France, Marine Le Pen, la presse, les quotidiens italiens d'hier ont insisté sur le fait que le succès du out dans le référendum britannique est une extraordinaire locomotive pour Marine Le Pen en France en particulier. Donc une attention à Marine Le Pen qui est de plus en plus banalisée, presque homologuée dans les débats politiques européens. Hein? Beaucoup plus homologuée en Europe de ce qu'il est en France, d'ailleurs. Et c'est l'autre élément sur lequel la presse italienne a insisté est Nigel Farage. Ce monsieur leader de l'extrême droite britannique,
UKIP,
qui a un rôle particulier parmi ceux qui ont gagné ce référendum en Angleterre, et qui, chose qu'en France on ne sait pas, a un groupe parlementaire commun au Parlement européen avec le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo. Et je voudrais que tous les commentateurs politiques français qui ont dit dans des différentes chaînes dans les derniers jours que la victoire de Beppe Grillo de son mouvement 5 étoiles à Rome était l'héritage de Coluche, avait des valeurs de gauche, tout ça, qu'ils réfléchissent sur le fait que ce mouvement populiste en Europe, au Parlement européen, en groupe commun avec M. Nigel Farage.
On le sait, hein, en France, Albert.
On le sait. Bon, alors, on va le répéter.
Anne Penquette, Nigel Farage, puisqu'il est question de lui, a été pendant la campagne tout à fait légitimé par la presse britannique dans son ensemble.
Oui, d'ailleurs, je pense que quand on regarde sa campagne, il a été très efficace. C'est seulement vers la fin où il a complètement dérapé avec cette affiche où on voyait la longue queue de réfugiés qui étaient à la frontière croate. Et malheureusement aussi, c'était le jour même du meurtre de cette jeune députée, Jo Cox. Mais jusque-là, il avait fait une très bonne campagne.
Il a dit, depuis le résultat du référendum, que ce Brexit avait été possible sans un coup de feu tiré. C'était aussi une référence de la part de Nigel Farage à cet assassinat de Jo Cox, une façon de s'en dédouaner.
Oui, parce que les partisans du Remain, lorsqu'elle a été assassinée, ils étaient très vite pour accuser en demi-mot la campagne du Brexit, parce que le ton utilisé par les partisans du Brexit a été, il y avait beaucoup de vitriol dans leurs propos, et c'est ça volait vraiment très très bas. Et si vous voulez, ils ont créé un environnement où la violence rhétorique pouvait très passer dans les actions. Et donc, il rendait Farage et ses acolytes un peu responsables de la mort de Jo Cox, oui.
Est-ce qu'au-delà de ce Brexit, au-delà de la crise des réfugiés, de la crise économique évidemment qui touche l'Europe depuis très longtemps, on peut voir revenir dans la presse britannique, qui était celle en tout cas pour le Remain, un espace pour un idéal européen dans les mois ou les années à venir, à votre avis, Anne Penquette?
Eh bien là, je pense qu'ils vont se replier sur eux-mêmes, parce que malheureusement, hein, c'est ça, on est une île. Et je crois que pour les travaillistes, dont leur dirigeant Jeremy Corbyn a été quasiment absent de cette campagne. D'ailleurs, il est très très tiède lorsqu'il a participé à la campagne. Et les Tories s'entre-déchirent. Et alors, et la presse, par exemple, The Guardian, déjà se pose des questions. Comment on va vivre avec les conséquences de ce vote? Que va devenir le parti travailliste? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour ces gens qui sont les laissés pour compte? En fait, ils avaient tendance à rendre l'UE responsable de leurs maux, mais en fait, c'était la politique du gouvernement et avant ce gouvernement des travaillistes qui n'a pas réagi aux conséquences de cette grande vague d'immigration qu'on a connue. Je rajouterai d'ailleurs qu'à Londres, heureusement, où il y a le plus d'immigrés au pays, c'est le oui qui l'a emporté aujourd'hui. Hein,
assez largement d'ailleurs, Anne Penquette. Vous allez aussi avoir un problème avec l'Écosse qui, évidemment, va se poser la question de son appartenance au Royaume-Uni. Ça fait écho un peu à ce que nous disait tout à l'heure Juan José Dorado avec la Catalogne en Espagne, même si le contexte évidemment est différent. Merci beaucoup, Anne Penquette, d'avoir été au téléphone avec nous. On va vous libérer. Vous avez un agenda évidemment très chargé au lendemain de ce Brexit. Est-ce que l'idéal européen, on va refaire un tour de table, Juan José Dorado, Stéphane De Vries ou Alberto Toscano, va devoir trouver une place peut-être différente, supplémentaire dans la presse de vos pays respectifs?
On ne se nourrit pas d'idéaux. Cet idéal a un sens si elle est incarnée et matérialisée dans des politiques. Et l'Europe est devenue impopulaire et la presse a multiplié cette impopularité par une série de polémiques parce qu'elle n'a pas eu de politique pour résoudre les problèmes des Européens. C'est si simple que ça. Si on pratique systématiquement une politique d'austérité à un moment où il y a un chômage à ce niveau-là, et on n'arrive pas à pratiquer en Europe une politique d'investissement, évidemment, l'Europe paye un prix. Ce n'est pas une question d'idéal, c'est une question de politique.
Mais la presse ne le dénonce peut-être pas suffisamment, Stéphane De Vries ?
Je pense que la presse s'en fiche réellement de l'Europe. La presse aime bien parler de ce qui se passe, peut-être la prochaine rue, peut-être le quartier un peu plus loin. Mais dès qu'on parle d'Europe, c'est trop loin. Et le vrai problème, à mon avis, pour le journalisme européen, s'il existe, c'est que tous les journaux, tous les médias nationaux traitent leur sujet de manière nationale. Ils ne regardent jamais l'Europe. C'est comme si l'Europe n'existait pas. Mais en fait, l'Europe, c'est nous. Et l'Europe, c'est peut-être beaucoup plus important que les capitales nationales. Et c'est ça la grande erreur que je nous reproche, c'est de ne pas prendre l'Europe pour quelque chose qui va de soi et toujours regarder notre nombril.
Mais c'est quelque chose à critiquer, Stéphane De Vries.
Absolument, mais c'est une critique, absolument. Et c'est pareil dans tous les pays. Hein. C'est pas limité à la France, aux Pays-Bas. C'est vraiment partout pareil.
Isabelle Verramasson.
Moi, je crois que l'Europe n'a pas réussi à produire un grand récit, alors que la nation a su, pendant des années, c'est particulièrement vrai en France, proposer un récit qui correspondait à quelque chose qui était de l'ordre du vécu des individus. Et ce récit a apporté la République, la liberté, l'indépendance, alors que l'Europe n'a pas réussi à proposer, encore une fois, une histoire, une fiction, un récit qui porterait des valeurs. Ça a été vrai pour les Allemands, à un moment donné, moi j'avais étudié cette question-là, l'Europe leur a proposé un récit qui leur permettait de vivre avec leur passé, avec leur histoire. Et puis, l'autre récit qui est le problème de l'immigration, de cette arrivée d'une sorte de menace, de différence, n'a pas réussi à faire disparaître cet autre projet qui était l'Europe.
Juan José Dorado, vous aurez le mot de la fin.
La presse n'est que le reflet de la société. Oui. Donc, la presse, c'est pas la presse qui doit changer, c'est plutôt les hommes politiques et sa façon de voir l'Europe qui doit changer.
Et la presse doit avoir aussi questionnement sur son relais.
Tout à fait.
Entre
mais
les
nous
hommes politiques.
Ne sommes que le reflet des hommes politiques essentiellement. Donc d'abord, les hommes politiques vont devoir changer sa façon de voir les choses, parce que nous, on reflète ce qui se passe. Ça se passe en Espagne, ça se passe partout ailleurs. Et puis, je suis sûr, la société suivra, puisque si nous, on donne les vraies raisons d'une vraie Europe, pourquoi douter ?
Pourquoi douter ? Merci à tous d'être venus dans le secret des sources cette semaine. Juan José Dorado, correspondant au groupe La Région en France. Isabelle Verramasson, merci à vous, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Stéphane De Vries, correspondant de RTL Pays-Bas à Paris.
Collaborateur.
Alberto Toscano, j'ai bien noté.
Collaborateur de la radio de la RAI.
Notamment, voilà, à la RAI. Avant de partir en Colombie dans un instant pour évoquer la façon dont la presse commente et analyse l'accord de cessez-le-feu définitif entre le gouvernement et les rebelles des FARC, restons quelques instants en Europe avec le clin d'œil de Yacine Bouzard.
Comment voyez-vous le futur à présent ?
Ça va être le chaos.
Cette élection, c'est la victoire de la classe populaire.
Le Daily Mirror, le seul tabloïd qui faisait campagne pour l'Europe, We Are Out. Et en face, le Sun, qui lui était clairement pour le Brexit et qui, ironise, se permet un petit jeu de mots. See you later.
Et on écoute le Premier ministre.
Et pour cela, je pense que le pays a besoin d'un nouveau leadership pour le mener dans cette direction.
L'Union européenne, c'est la loi El Khomri. C'est la désorganisation des services publics. C'est la marchandisation de tout.
Mais il faut aussi faire du 23 juin un jour férié que l'on appellera le jour de l'indépendance.
Let me tell you how.
Grande-Bretagne ne fera donc plus partie de l'Union européenne. Le vote des Britanniques met gravement l'Europe à l'épreuve.
Il y a cette classe ouvrière ici qui n'a pas accès à une bonne éducation, qui n'a pas accès à des services sociaux. Ces gens, ils ont de vrais problèmes. All my troubles seem so far away. Et ce référendum, c'est une opportunité pour eux pour faire un cri à l'aide, de se faire entendre par les élites. I'm not half the man
I used to be. C'était le clin d'œil de Yacine Bouzard dans Le Secret des Sources, émission qui continue avec notre séquence consacrée à l'actualité à l'étranger. Bonjour Zoé Berry.
Bonjour.
Avec nous depuis Bogota, où les échos du Brexit résonnent également, mais où la presse accorde évidemment un peu plus d'importance et de place à la signature de cet accord présenté comme historique entre le gouvernement colombien et la guérilla marxiste des FARC. Accord signé jeudi à La Havane et créant les conditions d'un cessez-le-feu présenté comme définitif. Le désarmement de la rébellion est annoncé sous le contrôle de l'ONU et les plus optimistes parlent de la fin de plus d'un demi-siècle de violence et du plus vieux conflit d'Amérique latine qui aura fait au moins 260 000 morts et 45 000 disparus. Zoé, évidemment, cette info est à la une.
Oui, il n'y a bien sûr pas un journal qui ouvre là-dessus. Et la presse colombienne est dithyrambique, en particulier le principal quotidien du pays, El Tiempo. Le titre de une, « Sous les yeux du monde, le gouvernement et les FARC scellent le silence des armes », donne le ton du reste. Ce quotidien le plus lu du pays va très loin dans l'appui au processus de paix, expliquant point par point pourquoi l'accord signé jeudi est historique. Il se veut pédagogique, mais il suit en fait dans les grandes lignes l'actuelle stratégie du gouvernement qui consiste à expliquer aux Colombiens les accords obtenus à La Havane avec la guérilla pour gagner l'appui de l'opinion et préparer le terrain pour la suite, puisque le pacte de paix final sera soumis au vote des électeurs. On est déjà en pleine campagne pour le oui.
Bon, l'enthousiasme est général, Zoé, et la plupart des journaux ont appelé d'ailleurs le pays à serrer les rangs autour du processus de paix.
C'est le cas du deuxième quotidien, El Espectador, qui a fait une une assez exceptionnelle. Une page toute blanche, au milieu, une Kalachnikov, l'arme utilisée par la guérilla, avec cette légende « ne pas recycler ». Cette une résume le plus cher désir des Colombiens, au-delà de leurs différences politiques. Que cette fois-ci, vraiment, la violence s'arrête et que la guérilla ne devienne pas une sorte de nouveau monstre comme c'est arrivé lors de dialogues de paix passés. Le mot que l'on retrouve le plus souvent dans les titres et les éditos est l'adjectif historique. Beaucoup insistent sur l'importance de deux hommes jusqu'ici méconnus, le guérillero Antonio Losada et le général Flores qui auraient été les artisans de ce dernier accord. Il y a peu de place pour les critiques dans la presse, mais ce n'est pas le cas dans les autres médias, en particulier les télévisions qui ont eu une attitude diamétralement opposée à celle de la presse écrite, à tel point que depuis jeudi, une fronde s'est développée sur les réseaux sociaux contre la chaîne RCN qui se partage l'audience avec la chaîne Caracol. Ces éditions spéciales et journaux ont été d'entrée très critiques envers l'accord avec la guérilla. Les partisans du processus de paix les accusent d'être orientés et appellent à carrément boycotter la chaîne. On a assisté à une scène assez étonnante cette semaine. Une sénatrice de gauche a quitté le plateau de l'une de ses chaînes qu'il avait invitée pour analyser l'accord. Avant de sortir, elle a expliqué qu'elle n'était pas interviewée réellement, qu'en fait, elle n'était là que pour revêtir d'un vernis d'impartialité une émission franchement hostile au pas franchi avec la guérilla. La vidéo de son coup de sang en direct est devenue virale.
Pendant toute la durée de ces négociations, Zoé, qui ont été très longues, est-ce que la presse a joué un rôle particulier au travers de ces prises de position?
C'est évident. Les médias ont joué un rôle de soutien ou d'opposition très net aux négociations. La gauche accuse donc les télévisions de manipuler l'opinion en donnant largement la parole à la droite, rassemblée derrière l'ancien président colombien Alvaro Uribe, pour qui négocier avec la guérilla équivaut à vendre la patrie. Ces télévisions relaient en fait les peurs d'une partie des classes moyennes colombiennes et leurs questions sur le processus de paix. De l'autre côté, il y a une presse dont l'adhésion est totale. Elle tient pour une position quand même très particulière. Selon le site d'investigation indépendant Las Dos Orillas, Le rédacteur en chef du journal a participé au dernier débat à La Havane en compagnie du rédacteur en chef précédent qui n'est ni plus ni moins que le frère du président colombien qui bien sûr dirige ces négociations. L'hebdomadaire Semana, dont le directeur est également un membre de la famille présidentielle, s'abstient lui aussi de critiquer les négociations avec la guérilla. Leur proximité avec le pouvoir explique leur position, mais pas seulement. Il reflète l'opinion générale des Colombiens, soulagés que les armes se taisent, enfin, après quand même un demi-siècle de conflit.
Du coup, l'attitude du gouvernement et la façon dont il a mené ces négociations est évidemment soumise à analyse.
Oui, alors une analyse qui n'est pas toujours très rationnelle. Hein. Ça va de la géographie du président aux critiques les plus caricaturales. L'opposition est arrivée à taxer le chef de l'État de castriste, alors que c'est quand même un libéral de centre-droit, ancien ministre de la Défense. Certains le voient comme un traître qui a troqué ses habits de combattant pour la photo d'une poignée de main avec la guérilla. Une partie du pays pense encore que donner l'accolade à ces gens-là, c'est une humiliation.
Et alors du coup, il y a aussi des contreparties qui ont été accordées à la guérilla des FARC. Comment est-ce qu'elles sont vues par la presse colombienne, ces contreparties, Zoé?
C'est un point dont la presse parle peu pour l'instant. Mais s'il y a bien une chose que les Colombiens ont du mal à accepter, effectivement, c'est que les guérilleros n'iront notamment pas en prison s'ils passent aux aveux. L'accord de paix prévoit des restrictions à la liberté et seulement dans les cas de violation des droits de l'homme les plus graves. Et puis la guérilla a rappelé hier qu'elle comptait faire de la politique puisque c'est sa raison d'être. C'est aussi difficile à accepter, ça, pour la plupart des Colombiens. Mais encore une fois, la presse préfère pour l'instant taire ses doutes et célébrer l'armistice.
Et regarder peut-être un peu plus loin vers le futur de la Colombie ?
Non, pas encore. On reste dans quelque chose de très superficiel pour l'instant, dans l'émotion. Les Colombiens le répètent dans les articles. Nos enfants vont pouvoir grandir dans un pays en paix. C'est presque devenu un slogan. Il faudra attendre quelques jours, voire plusieurs semaines, pour que les médias commencent réellement à analyser l'ampleur de la tâche qui attend le pays.
Merci Zoé Berry, correspondante de France Culture en Colombie. C'est ainsi que s'achève Le Secret des Sources cette semaine. Émission préparée par Mathias Mégy, réalisée par Vincent Abouchard. Le clin d'œil était signé Yacine Bouzard. À la technique aujourd'hui au studio 153 de la maison de Radio France, Bruno Gagnère-Fontani. L'adresse de notre site internet pour écouter cette émission, c'est franceculture.fr. Dans un instant, le journal de Bastien de Seninck, puis réplique d'Alain Finkielkraut. Très bonne journée à toutes et à tous et bon week-end sur France Culture.
La presse écrite en Angleterre a d'ailleurs pris position, on l'a dit, il y a eu des études qui ont été faites, 82% pour le Brexit, selon certaines études.
Bien crainte dans la presse italienne, dans les médias italiens, qu'il y ait comme une épidémie de référendums dans l'Europe entière.
Et le vrai problème, à mon avis, pour le journalisme européen, s'il existe, c'est que tous les journaux, tous les médias nationaux traitent leur sujet de manière nationale. Ils ne regardent jamais l'Europe. C'est comme si l'Europe n'existait pas. Mais en fait, l'Europe, c'est nous.